Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Et je vous invite à ouvrir un livre. J'espère qu'il vous est cher. On a tellement l'habitude d'avoir la Bible que, est-ce que vraiment, comme Mary Jones, connaissez Mary Jones et sa Bible ? Bon, ben, faudra demander l'histoire à un autre moment s'il la connaissait pas. Mais elle était tellement importante pour elle, la Bible, que pendant des années, elle a économisé pour aller en acheter une. Et nous allons ouvrir nos Bibles maintenant. Et je vous invite à les ouvrir dans deux épîtres. Alors, on ne va pas les lire en même temps, évidemment, mais comme ça, vous savez qu'on sera dans deux épîtres. La première lecture sera dans Romains 11, les versets 33 à 36, et la deuxième dans Éphésiens 2, versets 1 à 10. Donc là, on va commencer par Romains au chapitre 11, les versets 33 à 36, qui seront suivis du texte d'Éphésiens 2, 1 à 10.
Alors, première lecture. En Romains, au chapitre 11, des versets 33 à 36. Romains 11, 33. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Et on va voir une deuxième lecture en Éphésiens au chapitre 2, des versets 1 à 10. Donc Éphésiens 2 à partir du verset 1. « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante et de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes afin que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Jusque-là.
Pour commencer, j'aimerais vous lire un extrait de la confession de foi de l'Éphésien. Petit problème d'élocution. La confession de foi de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Le point 11 qui dit ceci. Donc, sanctification et témoignage fruit de la conversion. Objectivement, ceux qui sont unis au Christ, efficacement appelés et régénérés, et en qui un cœur et un esprit nouveau ont été créés, sont aussi, en plus, objectivement sanctifiés au nom du Seigneur par l'Esprit qui habite en eux. C'est objectivement. Et manifestement, le comportement et la vie sanctifiée persévérante, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, est la preuve visible de la conversion de ceux qui professent être des croyants. Cette sanctification subjective s'opère dans la vie des chrétiens au moyen de la parole et de l'Esprit de Dieu et doit se manifester par l'obéissance dans tous les domaines de leur existence. Si le Saint-Esprit n'agit pas dans nos vies, nous ne sommes pas vus saints par Dieu. Ça, c'est la sanctification objective en Christ. Et si l'Esprit de Dieu n'agit pas, nous ne progressons pas dans la sainteté. Ça, c'est la sanctification subjective. Et nous prions que le Saint-Esprit agisse puissamment dans nos cœurs ce matin afin de nous faire grandir et devenir encore plus proches de Christ et de la gloire qu'on veut lui manifester. Nous sommes particulièrement ce week-end dans la période qui rappelle les 20 ans de la constitution de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Et nous suivons une petite série de prédications sur l'identité théologique de l'Église locale intitulée « En Christ et humblement réformée baptiste ». On peut dire, hein, nous sommes fiers d'être en Christ. Voilà. Nous sommes fiers d'être en Christ qui nous sauve et règne sur nos vies et nous sommes contents d'être de la famille spirituelle réformée baptiste. Nous sommes fiers d'être en Christ et nous sommes contents d'être de la famille spirituelle réformée baptiste. Hein, comme je l'avais déjà dit, comme dans le peuple d'Israël, plusieurs tribus formaient ce peuple. Hein, ils formaient un seul peuple avec plusieurs tribus. Elles apportaient chacune leur force et s'encourageaient dans leur faiblesse. Et c'est ainsi que je nous encourage à voir les différentes familles spirituelles que Dieu aussi met en place dans son corps. Je vais aussi le rappeler à chaque prédication, ce que nous croyons, nous ne sommes pas les seuls à le croire. D'autres le croient aussi. Et nous ne sommes pas meilleurs chrétiens. Vous savez qui c'est le meilleur ? C'est Christ. C'est Christ. Et c'est ce Christ vers qui nous tendons nos regards, nous tournons nos regards et vers qui nous tendons de ressembler. Soyons donc humbles, pratiquons aussi ce que nous croyons, que tout vient de Dieu. C'est ce que nous croyons. Nous croyons cette souveraineté de Dieu. Tout vient de Dieu. Donc nous n'avons rien à nous glorifier en nous-mêmes. Nous pouvons nous glorifier ou glorifier Dieu de son œuvre. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler de la souveraineté de Dieu qui nous rend humbles et nous pousse à ne pas nous enorgueillir. En fait, c'est plutôt l'inverse qui devrait nous caractériser. Si nous croyons au monergisme, ouf, c'est ce que ça veut dire, ça ? Ce n'est pas un terme qu'on utilise souvent. Et puis je ne cherche pas à l'utiliser souvent, mais voilà, aujourd'hui je le dis, comme ça on saura ce que c'est. En fait, le monergisme signifie que toute initiative vient de Dieu pour le salut. Et quand on a cette croyance-là, on ne peut pas être orgueilleux. Ou on ne devrait pas l'être. La particularité, telle que je vais vous la présenter aujourd'hui aussi, de ce qu'on va voir dans l'enseignement, c'est vrai, nous différencie de toutes les églises du canton de Neuchâtel, à ma connaissance, de toutes les églises évangéliques du canton de Neuchâtel. Il n'y a actuellement pas d'autres églises qui croient et enseignent officiellement les doctrines de la grâce dans ce canton. Concernant l'EREN, donc l'Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel, eh bien aussi appelée l'Église réformée d'État ou l'Église protestante, eh bien historiquement, elle est aussi calviniste. Mais je ne connais pas précisément le renseignement actuellement. Et c'est très dépendant du pasteur de la paroisse. Alors rappelons-nous que ce ne sont pas des étiquettes qui nous intéressent. D'ailleurs, vous entendez assez rarement ces étiquettes, enfin en tout cas de ma part. Ce qui nous intéresse, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne et notre relation à l'identité de Christ, puisque c'est à Christ que nous cherchons à ressembler. Et donc ce matin, le menu est celui-ci, c'est que nous allons voir dans un premier point notre identité en Christ et le salut. Nous verrons dans un deuxième temps les solas qui sont une référence et nous verrons ce que Jésus en dit pour nous aider à voir si on est sur des bonnes pistes. Et troisièmement, les doctrines de la grâce, une assurance. Et également, nous serons accompagnés par les paroles du Christ. Alors, lors de notre dernière prédication intitulée « En Christ basé sur sa parole », nous avions lu deux textes bibliques fondamentaux pour bien comprendre un élément. Le premier, c'était dans Éphésiens 1, de 3 à 14, et l'autre, c'était dans Actes 20, 28. Pourquoi on avait lu ça ? C'était pour comprendre que être en Christ, c'est être de ceux que Dieu s'est acquis. Ça, c'est écrit dans Éphésiens. Être en Christ, c'est être de ceux que Dieu s'est acquis dans Éphésiens. Et dans Actes, nous avions vu que Dieu s'est acquis l'Église par son sang. Ça, c'était dans Actes. Donc ceux qui sont en Christ font partie de l'Église. Ok ? Le troupeau du divin berger. Et si nous disons être en Christ, eh bien nous aimons ce qu'il aime, nous aimons ce que Jésus-Christ aime. Nous croyons ce qu'il dit, on aime ce qu'il aime, nous croyons ce qu'il dit, et notre référence est ce qu'il nous enseigne et nous l'honorons. Nous voulons que Christ soit honoré dans l'Église, dans nos vies. Et en parlant du salut, nous touchons un sujet où nous pouvons avoir une fierté infinie. Je voulais dire une méga fierté, mais ce n'est pas infini ça. Une fierté infinie, en fait, en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes fiers de Jésus-Christ pour le salut qu'il nous donne ? Fiers de son œuvre ? C'est la raison pour laquelle Jésus, Dieu venu dans le monde, en prenant la nature humaine, est venu. Il a pris cette nature pour venir nous sauver. Il s'est limité pour venir nous sauver. Voici ce qui est dit dans Jean 10:10. Voilà, il parle des mauvais bergers. Quand il dit « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire », après il parle de lui-même, Jésus. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » C'est Jésus qui dit cela. Et dans Jean 12:46-47, il dit « Moi, je suis la lumière. Je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Jésus a toujours dit qu'il faisait la volonté du Père, vous êtes d'accord ? Jésus a toujours fait la volonté du Père. Luc 2:49, Jean 4:34 le souligne. Et donc le salut est entièrement et totalement une œuvre de la seule volonté de Dieu. Il n'y a aucun homme qui a été vers Dieu lui dire ce qu'il devait faire pour le salut. Personne n'a influencé Dieu pour l'histoire de la rédemption. C'est lui qui a mis cela en place et Jésus-Christ a totalement vécu ce que Dieu avait prévu. Il était totalement connecté avec Dieu, si vous voulez. Il n'y avait pas de problème de réseau qui ne fonctionnait pas. La connexion était totale. Et d'ailleurs, personne n'a dit à Jésus pourquoi il était là et ce qu'il devait faire, dans le sens de le diriger. Il a accompli la volonté du Père jusque dans les moindres détails. Et la volonté révélée de Dieu maintenant pour nous aussi, Jésus l'a clairement exprimé dans Jean 6:40. Il dit « Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque, alors si vous faites partie du quiconque, ça vous concerne, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc ça, c'est Jésus qui dit « Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » La foi est le moyen par lequel l'homme saisit le salut. La grâce est le moyen par lequel Dieu donne le salut à l'homme. La parole de Dieu est la référence pour connaître le salut. Et Jésus-Christ est le médiateur pour nous faire bénéficier du salut, ce salut qui est à la gloire de Dieu. Alors si vous avez quelques connaissances ou quelques souvenirs des prédications qu'on a entendues, vous venez d'entendre les solas, les cinq solas. Je viens simplement de les dire. Ce sont les cinq solas de la Réforme qui soulignent ces éléments et nous allons voir ce qu'en pense Jésus dans quelques instants. La situation de l'homme pécheur perdu, l'œuvre de Dieu dans l'élection, l'œuvre de Christ dans la rédemption, l'œuvre du Saint-Esprit dans la transformation et la durée du salut sont des éléments, en fait, que les cinq points des doctrines de la grâce soulignent. Et nous allons aussi voir ce que Jésus en pense, s'il nous indique des choses différentes ou non. Le but, c'est de voir quelles sont les pistes que Jésus nous donne dans l'Évangile par rapport à ces sujets-là. Alors, j'aimerais dire quelque chose maintenant qui va vous faire sourire, peut-être. Mais Jésus n'était pas réformé baptiste. Et non. Jésus n'était pas réformé baptiste. Mais les réformés baptistes cherchent à ressembler à Jésus-Christ. comme d'ailleurs d'autres chrétiens fidèles à la parole qui cherchent aussi à ressembler à Jésus-Christ. Jésus-Christ était simplement Jésus-Christ. Il n'était pas réformé baptiste. Mais les réformés baptistes, comme d'autres d'ailleurs, cherchent à ressembler à Christ. Vous savez, quand on parle du salut, il est bon d'avoir en tête l'image du roi, d'un roi qui règne, d'un roi qui vient sauver son peuple en donnant sa vie avec toute la puissance. C'est à ça qu'il faut penser quand on pense au salut. C'est vraiment important, parce qu'on tourne vers les yeux vers celui qui nous donne le salut, qui l'a accompli. Et en faisant cela, en donnant sa vie, hein, quand il est venu, il semble qu'il perd son pouvoir. Hein, il va mourir. On a l'impression qu'il a perdu son pouvoir. Et pourtant, comme par exemple le lion Aslan dans Narnia, hein, quand il meurt, tout semble terminé, mais par sa résurrection, il manifeste sa souveraineté. C'est extraordinaire. Il est venu enlever le mal de manière radical, en prenant sur lui ce mal qu'il va vaincre par la résurrection. Personne d'autre ne pouvait le faire, personne. Et pour faire partie de son peuple, il suffit de l'accepter, d'accepter aussi son état, de reconnaître son état et de placer sa confiance en lui. Observons donc maintenant rapidement les sola, vérités bibliques enseignées par Jésus et les apôtres et remis en valeur lors de la réforme, c'est notre deuxième point. Alors tout ce qu'on peut déjà dire, c'est que la plupart des églises évangéliques sont d'accord avec les sola. Ça c'est un point quand même qui est assez général, d'accord avec les sola, et quelqu'un a même dit que ce sont les 5 affirmations de la foi évangélique. Alors, on a déjà vu ensemble ces 5 sola dans une série de prédications, donc je ne vais pas la refaire maintenant, mais vous pouvez la réécouter, hein, les réécouter. Mais on va voir quand même ces 5 éléments pour nous les remettre en tête, simplement assez rapidement. Vous pouvez aussi faire l'exercice, ça je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais dans les petits papiers que vous avez reçus, il y en a encore un ou deux là-bas, j'ai mis des références pour chaque sola où vous voyez Jésus qui s'exprime, qui dit des choses ou qui enseigne, et qui nous donne la piste, en fait, que ce sola correspond à ce que Jésus disait aussi. Donc là, je ne vais pas donner toutes les références pour ne pas alourdir la prédication maintenant, mais vous les avez. Donc on va commencer par le sola scriptura, l'écriture seule, une seule référence, il n'y a pas d'autre. Et je vais chaque fois vous donner la conséquence du sola. Voilà, c'est comme ça que je vais le faire pour qu'on aille simplement un peu ça en tête. Donc la conséquence du sola scriptura, c'est que nous avons une référence fiable. Nous avons une référence fiable et non contradictoire. Nous avons une référence fiable, non contradictoire, un moyen de connaître le salut et comment le vivre. Bon, comme je ne voulais pas prendre trop de temps, j'ai des phrases assez condensées. Hein, désolé, j'espère que ça ira, je veux juste la répéter, comme ça on l'a bien en tête. La conséquence du sola scriptura, c'est que nous avons une référence fiable, non contradictoire, un moyen de connaître le salut et de la manière de le vivre. Le deuxième, le solus Christus, par Christ seul, un seul médiateur, ça aussi les références, hein. Et la conséquence du solus Christus, c'est que nous n'avons ni besoin de jouer au super-héros, ni besoin de chercher un médiateur avec le Tout-Puissant. Jésus est pleinement et totalement suffisant. Donc le solus Christus, ce que nous avons, c'est que nous n'avons ni besoin de jouer au super-héros, ni besoin de chercher un médiateur avec le Tout-Puissant. Jésus-Christ est pleinement et totalement suffisant. Il a vécu une vie parfaite qu'il nous impute. Il est mort pour payer nos fautes. Et nous voilà prêts à vivre à sa suite en mettant toutes nos capacités au service de notre roi. Il est notre roi, ou alors il n'est rien du tout pour nous. Solus Christus. Ensuite, le sola fide, par la foi seule, un seul moyen pour saisir le salut. De nouveau, vous avez des références dans les évangiles. La conséquence du sola fide, c'est que notre confiance est placée uniquement sur ce que Christ a fait. Notre confiance est placée uniquement sur ce que Christ a fait et pas sur ce que nous avons fait. Et c'est très rassurant et engageant lorsque l'on saisit ce que cela signifie. Puisqu'avoir la foi en Christ, c'est pas juste dire « j'ai confiance », c'est vivre par Christ. Donc c'est très engageant, même si tout repose sur son œuvre à lui. Donc la conséquence du sola fide, c'est que notre confiance est placée uniquement sur ce que Christ a fait, pas sur ce que nous avons fait. C'est très rassurant et engageant lorsque l'on saisit ce que cela signifie. Quatrièmement, le sola gratia, par la grâce seule, une seule source de salut. Alors les conséquences, ou la conséquence du sola gratia, c'est que toute personne qui reçoit ce cadeau non mérité du salut, pour toute personne qui reçoit ce cadeau non mérité du salut, eh bien le cœur se gonfle de reconnaissance. C'est une grâce de Dieu, le salut. La conséquence pour nous du sola gratia, c'est que toute personne qui reçoit ce cadeau non mérité du salut, pour toute personne, le cœur se gonfle de reconnaissance. Et le cinquième, c'est ça, SDG, bien joué. Soli Deo Gloria. À Dieu seul la gloire. Un but ultime du salut, c'est la gloire de Dieu. Et la conséquence du Soli Deo Gloria, c'est que nous n'avons plus à chercher à qui rendre gloire. Il n'y a pas besoin de se demander, mais à qui est-ce que je dois donner mon allégeance? Pour qui est-ce que je dois donner toute mon énergie? Pas besoin de chercher. C'est à Dieu qui sauve que nous voulons rendre toute gloire. La conséquence du Soli Deo Gloria, c'est que nous n'avons pas à chercher à qui rendre gloire. C'est à Dieu qui sauve que nous voulons rendre gloire. Voilà, je ne voulais pas prendre trop de temps pour ces solas, pour avoir plus de temps pour le dernier point, mais ainsi nous avons un peu remis ces éléments en place qui nous remplissent de cette joie de tourner nos regards vers la seule source, la seule eau. On est bien ici dans ce chalet, on ne peut pas boire toute l'eau ici, il n'y a qu'une eau, c'est celle de Christ, celle de Dieu, celle de la grâce, celle du salut par la foi, celle d'un salut qui est pour la gloire de Dieu auquel nous voulons nous abreuver. Toute autre eau est frelatée ou même empoisonnée. Tournons-nous maintenant vers les doctrines de la grâce que nous n'avons pas encore enseignées de manière systématique lors de prédications. Alors c'est vrai que ce sujet a été abordé une fois dans ces 20 ans, enfin ça fait dans les 10 dernières années, dans le cadre du groupe de dames qui ont écouté les prédications de David Woon sur ce sujet. C'est le seul endroit dans l'Église où il y a un enseignement pour l'instant systématique sur ce sujet, à part les camps d'été pour ceux qui sont venus. Alors on va survoler le sujet, c'est vrai, en nous référant régulièrement à Éphésiens 2, c'est aussi pour ça qu'on a lu ce texte, hein. Et nous allons aussi particulièrement voir ce que dit Jésus, pour voir si on est sur une bonne piste, en fait. Puisqu'en fait, comme je vous ai dit, c'est une particularité de l'Église, puisque les autres Églises n'enseignent pas exactement de cette manière-là, donc on doit être rassuré. Est-ce que Jésus enseigne ça? Est-ce qu'il nous donne sur la même piste? C'est un élément important à comprendre. Il faut aussi souligner un élément important dès le départ, avant que j'entre dans ce sujet, c'est que si quelqu'un d'autre a une vue un peu différente de celle-là, en ayant les cinq solas, hein, mais une vue un peu différente, eh bien, il est possible qu'il soit aussi chrétien. Bien sûr. Et que nous passerons même l'éternité ensemble. Donc, toujours prendre ces choses-là avec humilité. Simplement, il y a des implications pratiques dans la façon de vivre sa foi qui sont vraiment différentes dans notre voyage sur cette terre. Et donc, on verra ça plus particulièrement en conclusion quand on aura bien pris tout ça dans nos textes. Alors, j'aimerais aussi directement couper court à deux choses. La première, c'est que la question de la double prédestination qui dit que Dieu a prédestiné des personnes pour le ciel et Dieu a prédestiné des personnes à l'enfer, nous n'enseignons pas cela. Ok ? Donc la Bible est claire. Dieu ne prédestine personne à l'enfer. Vous trouverez ça nulle part. Nulle part dans la Bible. C'est l'homme qui, par son péché, a placé toute sa descendance sur le chemin de l'enfer. C'est ça qui s'est passé là. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est par le péché d'Adam que toute l'humanité, en fait, est entrée dans ce chemin qui va vers l'enfer, qui est un juste jugement de Dieu. Nous sommes tous condamnés à l'enfer éternel. Personne ne peut être sauvé de la juste colère de Dieu par lui-même. Personne. Dieu ne serait pas injuste s'il ne sauvait personne. Ça ne serait pas injuste, puisque nous méritons tous, en fait, ce jugement de Dieu. Et deuxièmement, Dieu, dans sa grâce, a prévu un moyen de salut. C'est Jésus-Christ. Et il a prédestiné des personnes au salut. C'est-à-dire qu'il a choisi d'avance qui il allait sauver. C'est l'élection. Certains disent alors que ceux qui croient à cela n'annoncent plus l'évangile. Puisque c'est Dieu qui fait tout, on n'a rien besoin de faire. Mais nous ne croyons ni n'enseignons cela, c'est pas ce que la Bible dit. Si effectivement Dieu sauve, ce même Dieu nous demande d'annoncer l'Évangile. Et de l'annoncer partout et à tout le monde. Il n'y a pas d'exception. C'est le moyen qu'il utilise pour toucher le cœur et sauver des personnes de l'enfer. L'Évangile qui est annoncé par vous et moi. Et tous les autres chrétiens, évidemment. Et on s'en réjouit. C'est vrai que, vous savez, Dieu ne se repent pas à notre place. Il ne croit pas à la place des élus. Celui qui est sauvé se repent de ses péchés et croit à l'œuvre de Dieu. Nous sommes totalement et pleinement actifs. OK ? Donc là, j'ai écarté ces deux choses comme ça, c'est clair. Parce que souvent, quand quelqu'un parle de ses doctrines et il dit qu'il n'est pas d'accord, ben il prend ces deux sujets. Voilà. Puis après, laisser les gens à l'enfer. Ben nous, on ne croit pas ça, on n'enseigne pas. Et puis, ceux qui croient ça, ils n'évangélisent pas. Ben ça, nous, on ne croit pas et on ne veut pas vivre cela. OK ? Donc ça, c'est fait maintenant. Lorsque on a découvert ces doctrines avec Marlise, il y a quelques années maintenant, pour Marlise et moi, ce fut comme un renouveau. On avait été enseigné dans la parole de Dieu, déjà dans la foi chrétienne, heureux d'être en Christ. Et en découvrant en fait cette œuvre, en retournant nos regards plus vers Christ, vers Dieu, vers son œuvre, nous avons été avec Marlise et d'autres. C'est une de mes questions favorites que je pose aux gens. Je pose trois questions généralement. Ça, vous le savez si jamais je vous les pose. Hein. C'est comment Dieu vous a transformé, comment vous êtes venu doté de la grâce, et puis ceux qui sont mariés, comment vous êtes rencontrés. Mais j'ai posé cette question à plein de monde et je vois que pour tous ceux qui ont découvert ça, c'est comme waouh, un voile qui s'enlève. Tout en étant déjà sauvé, hein, qu'on se comprenne bien. Et ça, c'est quelque chose qui pour nous a été vraiment extraordinaire et c'est ce qu'on veut aussi enseigner vivre dans l'Église. Alors, je vais vous présenter ces cinq points avec un acronyme que vous ne connaissez peut-être pas encore. Parce qu'on a toutes sortes d'acronymes, mais souvent quand on présente ces cinq points, ben, la grâce ne fait pas partie. On dit c'est les doctrines de la grâce, puis ensuite on parle de plein de choses, mais la grâce n'est plus là. Et moi j'ai dit non, je vais vous présenter cela avec la grâce. Alors l'acronyme c'est DIATI, D-I-A-T-I. Ça veut dire quelque chose en grec, ça veut dire pourquoi. J'aime bien cette notion, parce que pourquoi tout le salut est-il centré sur Dieu? Parce que tout est basé sur sa grâce. Voilà pourquoi DIATI, D-I-A-T-I. Donc je vous les donne déjà une fois, puis ensuite on va tout petit peu les voir et voir qu'est-ce que Jésus en dit si on est sur une bonne piste. Alors premièrement, le D, c'est la grâce désillusionnante sur notre état. Hein? Dieu voit notre dépravation radicale. La grâce désillusionnante, c'est une grâce en fait, d'être désillusionné sur nous-mêmes pour être complètement ouvert à l'œuvre de Christ. Deuxièmement, la grâce imméritée du choix. La grâce imméritée du choix. Dieu choisit par élection souveraine. La grâce imméritée du choix. Ensuite, le A, D-I-A, la grâce accomplie du salut. C'est une grâce qui est accomplie du salut. Dieu accomplit la rédemption effective. Quatrièmement, la grâce transformante de notre nature. C'est une grâce que Dieu transforme notre nature. C'est en fait Dieu qui fait un appel efficace. Et cinquièmement, la grâce inébranlable pour l'éternité. La grâce inébranlable pour l'éternité. Dieu garde par la persévérance des saints. Voilà ces cinq éléments. On va maintenant les voir avec ce texte déjà d'Éphésiens et ce que dit Jésus. Voilà les pistes qu'on voit dans les évangiles déjà aussi, clairement. Donc la grâce désillusionnante sur notre état. Alors on va relire les versets 1 à 3 d'Éphésiens 2. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est quand même assez clair ici la situation. Et la grâce désillusionnante, c'est de comprendre ceci. Et Jésus ne se fait aucune illusion, lui, par rapport à l'état de l'homme et sa situation de pécheur. Deux éléments qu'on va voir. Le premier, c'est dans Jean 8, 34, où il dit, Jésus le répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Qui a déjà commis un péché, il est esclave du péché. Ça, c'est Jésus qui le dit. Une condition sans illusion. Pourquoi ? Parce qu'en ayant péché, on contracte une dette envers Dieu que l'on ne peut pas payer. Parce qu'en fait, tout le temps qui nous reste après ce péché, ben on le doit à Dieu. Il faudrait rattraper ce qu'on ne lui a pas donné. Mais on lui doit déjà tout ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas payer. Parce que si on veut payer ici, ben en fait, on est en train de prendre ce qu'on devait lui donner. Jésus est clair aussi. Le péché ne vient pas de quelque chose d'extérieur. Ben pour dire, ah non, mais c'est les gens autour de vous qui vous énervent, hein, évidemment. Vous savez ce qu'il dit dans Matthieu 15, 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées à l'intérieur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. De l'intérieur. Il faut se désillusionner. Nous sommes pécheurs, radicalement pécheurs. L'homme est mort spirituellement dans le péché, Éphésiens 2, 1, on l'a vu. Il est aveugle, 2 Corinthiens 4, 4. Il n'est pas né. Jean 3, 5 à 7, je parle spirituellement, hein, dans cet état spirituel qui a un lien, qui veut ce lien avec Dieu. Il n'est pas une nouvelle créature. Il y a besoin d'un acte créateur, si vous voulez. Donc, étant donné que l'homme est de nature pécheresse et pratique le péché, s'il ne se repent pas, en fait, il est en train d'accumuler un trésor de colère contre lui. Vous saviez ça ? Tous ceux qui ne se repentent pas, chaque péché va dans un trésor de colère que Dieu un jour va ouvrir. Et si vous ne voulez pas que ce trésor de colère se déverse sur vous, eh bien, il faut qu'il soit déversé sur quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un doit payer les dettes. C'est Romains 2, versets 4 et 5 qui nous disent cela. Or, méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support, de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? Voilà, il nous pousse. Hein, est-ce que... Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Donc par rapport à ce premier point qui est une grâce d'être désillusionné quelque part, hein, ne gardons aucune illusion. Ne gardons aucune illusion. Il n'y a rien en l'homme qui puisse être capable par lui-même de se tourner vers Dieu. Rien. Il faut être désillusionné. C'est important. Sinon, on va s'accrocher à nos illusions. Ne gardons aucune illusion, il n'y a rien dans l'homme qui puisse être capable par lui-même de se tourner vers Dieu. Il est sous le jugement du Créateur et n'a aucun moyen en lui-même pour payer une rançon. Aucun moyen en lui-même pour payer une rançon. Donc, regardons à Christ, notre seul espoir. Comme le peuple dans le désert qui regarde au serpent d'airain pour être guéri. Pour bien soigner une maladie, il est important, pour donner aussi des bons médicaments, d'avoir un bon diagnostic. De même, pour le salut, il est important de connaître le diagnostic. Et c'est une grâce de perdre toute illusion concernant un aspect non touché par le péché. Même si nous faisons de bonnes choses, oui, nous faisons de bonnes choses, mais elles sont entachées par le péché. Dans sa grâce générale, Dieu permet que beaucoup de monde, même non chrétiens, fassent des bonnes choses, c'est vrai. Mais c'est entaché par le péché. C'est pour cette raison que nous avons toujours besoin de chercher la direction, la force, la sagesse, la pureté auprès de Christ, en comptant sur l'œuvre du Saint-Esprit et en vivant à fond le ministère qu'il nous confie. Il vous a donné des capacités de réflexion, des capacités de dire « Ah oui, j'ai péché, je vais me repentir. » Mais on n'attend pas que Dieu est en train de nous dire « Va te repentir. » Une voix vient du ciel. Vous le savez, vous le faites. Parce qu'il nous a donné ces capacités qu'on utilise et cela vient de lui. Deuxième élément, c'est la grâce imméritée du choix. Là, dans Éphésiens 2, si on va regarder le verset 8, est très faux. Hein? « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Rien de nous. Et Jésus nous montre un exemple avec ses disciples. Voici ce qu'il leur dit. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi. » Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jésus n'a pas choisi ses disciples parce qu'il savait qu'ils allaient répondre positivement. Non. Non. Mais parce qu'il l'avait décidé. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. S'il avait attendu, il aurait dit, ben, c'est vrai, vous m'avez choisi, mais je le savais d'avance, donc c'est pour ça. Non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il l'avait décidé pour leur manifester un amour particulier. Et Jésus dit que c'est ceux que le Père lui a donnés qui viennent à lui, dans Jean 6, 37. Pas ceux qui auraient un mérite particulier. Le choix de Dieu n'est d'ailleurs pas en lien avec une particularité chez l'élu. Non? C'est bien illustré quand l'Éternel explique comment il a choisi Israël dans l'Ancienne Alliance. On sait que l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'est des ombres des choses à venir. Donc il y a des illustrations, des images. Et là, il dit à son peuple, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » Non. Et Dieu ne donnera pas le choix de la raison du côté de l'élu. Par contre, il nous donne la raison de son côté à lui, qui est un amour qui nous dépasse. L'implication de la grâce imméritée du choix, c'est que je ne pourrai absolument jamais me vanter d'être sauvé. Je suis trop bon, voilà pourquoi je suis sauvé. Mais non, c'est Christ qui est trop bon. Ben, il est pas trop bon en plus, il n'y a pas de trop, mais... Vous voyez, je ne pourrai absolument jamais me vanter d'être sauvé. C'est lui qui m'a choisi et son choix ne change pas. Et en réponse de tout mon cœur, eh bien, je choisis de le suivre. Évidemment, je suis impliqué hein, et j'utilise toutes les capacités qu'il me donne. Donc ça, c'était la grâce imméritée du choix. Troisièmement, la grâce accomplie du salut. Le verset 4 nous dit ici, dans Éphésiens 2, « Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Ce n'est pas hypothétique ici. Hein? Il vous a rendu la vie avec Christ. Jésus est venu accomplir un salut effectif et non hypothétique. Sur la croix, Jésus a dit « Tout tête accomplie. » C'est un mot, hein, vous vous souvenez, ça on a déjà vu. C'est le seul mot grec que je vous apprends. C'est tetelestai. Tout est accompli. Tout est payé. C'est aussi un élément de compréhension de ce terme. Ce n'est pas une somme d'argent mise de côté pour celui qui voudrait aller la prendre pour payer sa dette. Non, la dette est payée. Le jugement est tombé sur Christ. Jésus, d'ailleurs, sait pour qui il a payé. Dans Jean 10, 15, il dit clairement, « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Je donne ma vie pour mes brebis. Dans sa prière, que l'on nomme la prière sacerdotale, dans Jean 17, la Saint-Fête, c'est la prière du sacrificateur. C'est pour ça qu'on l'appelle sacerdotale. Hein. C'est parce qu'on voit là ce rôle de sacrificateur de Jésus qui va plaider devant l'Éternel pour le peuple. Il est le médiateur entre Dieu et l'homme. Jésus fait une claire distinction entre ceux qui sont du monde et ceux qui lui sont donnés. Car ils sont à Dieu. Il dit dans Jean 17, 9, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Donc l'implication de la grâce accomplie, le fait que Dieu a accompli la rédemption effective et que notre salut est assuré. Il a payé. Ce n'est pas quelque chose qui peut être payé si on va chercher l'argent. Oui, mais si je n'ai pas vraiment tout cherché. Non, il a payé. Tetelestai, tout est accompli. Il n'y a plus de transaction à faire. Rien pour lequel je pourrais me tromper et être insuffisant. Donc ça, c'était la grâce accomplie du salut. Quatrièmement, la grâce transformante de notre nature. Oh. Verset 5, hein, on le relit. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a rendus à la vie. Notre nature a besoin d'être transformée. Nous avons besoin d'être régénérés. On peut dire de ressusciter spirituellement, ou de recevoir la vie, ou une nouvelle naissance, ou d'être une nouvelle créature. Avec un désir de s'approcher de Dieu et de vivre pour lui. Jésus indique que Dieu doit agir par un attrait, un appel pour que nous puissions venir à lui. Jean 6, 44 nous dit « Nul », ça veut dire quoi nul ? Zéro, pas de personne. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est clair. « Et je le ressusciterai au dernier jour. » On peut dire que Jésus indique que cette transformation de nature va impliquer une réponse. L'âme transformée du lion, si quelqu'un était un âne, puis transformé en lion, ben il va manger la viande. Un âne, manger la viande, il faut y tourner la queue, ça ne marche pas. Hein? Mais s'il est transformé, Dieu ne force personne. Il transforme. Jean 6, 37 nous dit, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Le texte d'Éphésiens 2 qu'on a lu là est clair. Nous étions morts et il nous a rendus à la vie par Christ. Dans la lettre à Tite, Paul souligne encore, là je vous invite à aller regarder, c'est un texte de quelques versets. Donc Tite, chapitre 3, versets 3 à 8. J'aime beaucoup ce texte qui nous encourage. Tite 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés et désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, odieux, nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu insistes là-dessus afin que tous ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Donc la parole me permet même d'insister. C'est écrit ici dans ce texte. Alors, l'implication de la transformation, c'est que cela se voit. Celui qui est en Christ répond à l'appel de Dieu. Car ses désirs sont maintenant tournés vers Dieu. Voilà l'implication de cette grâce transformante. On voit que Dieu appelle efficacement. L'implication de cette transformation, c'est que cela se voit. Celui qui est en Christ va répondre à l'appel de Dieu, car ses désirs sont maintenant tournés vers Dieu. Mais c'est vrai qu'on se rend compte dans nos vies que le désir est tourné vers lui, mais on a encore ce péché qui est là. Oh là là, ces vieilles habitudes qui sont encore tellement ancrées. Et j'aimerais vous dire, n'ayez pas peur si vous avez l'impression de toujours plus lutter contre le péché. Parce qu'en fait, votre nouvelle nature vous permet de voir encore plus le péché. Celui qui n'a pas cette nature ne cherche pas à combattre le péché. On arrive à la grâce inébranlable pour l'éternité. La grâce inébranlable pour l'éternité, le cinquième. Éphésiens 2:10 nous dit ici, « Car nous sommes ouvriers, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance avant, afin que nous les pratiquions. » Dieu a préparé des choses qu'on va pratiquer. Il prépare des choses, il prépare pas des choses qu'on ne va pas faire. La grâce de Dieu n'est pas au rabais. Ce qu'il commence, il le termine. Il ne paie pas un grand prix, la vie de son fils, pour ensuite laisser tomber. Non. Et ça, c'est souligné. Moi, j'aime ce texte de Romains 5:9. Romains 5:9, ça vous requinque. Voilà, vous voulez chercher un passage qui vous requinque. Romains 5:9 vous dit ceci. « À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, ce saluant Christ, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Il ne va pas nous laisser tomber. Jamais. « À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Et Jésus lui-même, en fait, a souligné cette persévérance par une promesse et deux exemples. Là, on va toujours voir s'il y a des pistes vers Jésus qui nous permettent de voir ces éléments-là. Et là, la promesse se trouve dans Jean 10, 28, 29, on la connaît bien, elle nous encourage, qui nous dit, c'est Jésus qui dit par rapport à ses brebis, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » Personne. Certains disent, « Ouais, personne, mais moi-même, je peux sauter. » Attends, mais personne, ça fait pas, je fais partie de ça. Hein. « Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui les a donnés est plus grand que tous. » Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Ce n'est pas moi qui répète, c'est dans le texte. C'est Jésus lui-même qui le répète. Et Jésus a donné des exemples. Je vous en donner juste deux. Un exemple de ce qu'il a vécu qui nous aide à voir en fait cet élément-là. Par exemple, il savait que Pierre allait le renier. Mais il n'allait pas le laisser tomber dans son péché. Il a prié pour lui, afin que sa foi ne défaille pas. Et nous savons que Dieu exauce toujours les prières de Jésus, puisqu'il fait toujours sa volonté. Il dit dans Luc 22, 32, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Un exemple de ce que signifie cette doctrine. Ou deuxième exemple, se trouve dans la prière que Jésus a adressée à son Père et qui nous est rapportée dans Jean 17. On en a déjà un peu parlé avant de ce texte. Il explique qu'il a gardé tous ses disciples selon le choix de Dieu. Il a dit ceci, Jean 17, 12, « Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Et tous ceux en qui Christ vit n'est pas un fils de la perdition, si vous êtes un peu troublé par ça. On peut en parler par la suite. En priant pour nous, Jésus l'a prié pour nous, en fait, ici dans Jean 17. En priant pour nous, ceux qui croient en Jésus, par la parole de ses disciples, notre Sauveur et Roi dit, et rappelons-nous, Dieu exauce toujours les prières de Jésus, car il prie toujours selon sa volonté, il dit ceci dans Jean 17, 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est notre assurance. Et d'ailleurs, Jésus est maintenant notre avocat auprès du Père lorsque nous confessons nos péchés. Si vous allez vers Dieu et dites, je te demande pardon pour mon péché, Jésus, il est à côté, il dit, j'ai payé pour lui, j'ai payé pour elle. Donc l'implication de la grâce inébranlable, c'est une assurance extraordinaire. Une assurance extraordinaire, non pas une assurance en disant « c'est égal ce que je fais, Dieu me gardera ». Vous savez que si vous dites ça, ben vous n'avez pas une nouvelle nature. Parce que la nature que Dieu nous donne, elle ne dit pas ça. Elle dit « Je veux faire ce que Dieu veut ». Vous voyez la différence? Donc c'est une assurance extraordinaire. Non pas une assurance, c'est égal ce que je fais, Dieu me gardera. Parce que cela montrerait que la nature n'a pas été changée. Mais nous avons une assurance en Christ, motivée à le suivre. Notre assurance, elle est par nous, en Christ. Et nous sommes motivés à le suivre. Vous savez, il est impossible de vivre heureux dans le péché avec la nouvelle nature. Bon, même avec l'ancienne entre nous. Mais impossible de vivre heureux dans le péché avec la nouvelle nature. On sera toujours repris. Mais Dieu le veut pour que nous puissions progresser. Et c'est une douce assurance que tous nos efforts pour vivre selon Dieu et pour toujours revenir à lui lorsque nous chutons font partie de son plan pour nous amener à bon port et nous faire grandir à la ressemblance de Christ. En conclusion à cette prédication, en Christ, notre Sauveur et Seigneur souverain, j'aimerais voir les implications. Qu'est-ce que ça implique alors dans nos vies? Et qui seront justement différents selon ce que l'on croit. Notre identité chrétienne se trouve en Christ. C'est en lui, par lui et pour lui que nous sommes sauvés. Et ce n'est pas notre théologie qui sauve. Hein. Ça, c'est un élément important. Par contre, notre direction théologique va nous faire agir de différentes manières. Celle des solas et des doctrines de la grâce que nous enseignons et cherchons à vivre à l'Église réformée baptiste de Neuchâtel ont des effets. Les voici. Cette direction théologique donne une très grande place à Dieu, à qui nous voulons que toute la gloire revienne. Et nous nous réjouissons que toute la gloire lui revienne. Deuxièmement, cette direction théologique nous rend humbles, étant les bénéficiaires d'une œuvre totalement accomplie en Christ. Et non seulement nous sommes humbles de l'avoir reçue, mais nous sommes heureux de la présenter à tous ceux qui sont autour de nous. Puisque ça ne diminue pas. C'est extraordinaire ça. C'est un trésor que quand on le reçoit, on le donne ailleurs, il ne diminue pas. Je dirais même qu'il augmente. Cette direction théologique donne toute la place à Jésus-Christ qui a souligné ces différents aspects qui nous poussent à vivre à sa suite. Si notre nature est transformée, nous dirons, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ou nous dirons, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Vous voyez? C'est Christ, en fait, qui est le centre de tout ce que nous pensons et cherchons à vivre. Et cela se verra dans le concret dans nos vies, dans la manière de faire face aux diverses circonstances. Tu diras, oh non, pourquoi de nouveau cette épreuve? Tu diras, attends, Seigneur, c'est dur cette épreuve. Oui, mais je sais que tu veux me former à ton image. Donne-moi la force et la grâce. Vous voyez la différence? Cette direction théologique s'attend encore à des transformations de cœur opérées par Dieu et pas seulement des changements de comportement. Nous croyons que Dieu transforme. On n'est pas seulement dans l'idée que des gens s'intéressent. Non, Dieu transforme. Et c'est ainsi que nous entendons à des transformations dans la vie. Cette direction théologique nous donne aussi une très grande motivation à vivre notre foi et bénéficier de la grâce. Parce que Dieu nous tient fermement dans la main. Donc on peut y aller. Il n'y a pas de risque d'être perdu. On peut évangéliser, on peut annoncer la nouvelle, on peut vivre notre foi. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il nous garde. Nous savons que le meilleur est devant nous. Donc agissons avec la confiance sur la parole, même si on ne comprend pas toujours pourquoi on vit ce que l'on vit. Mais comme c'est Dieu qui agit et que ce n'est pas moi qui dois avoir les commandes de tout ce qui se passe, je peux lui faire totalement confiance. Cette direction théologique encore nous donne une très grande motivation à annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que nous savons que la parole de Dieu sera efficace dans le cœur de tous ceux que Dieu transforme. C'est une motivation extrêmement grande. Et d'ailleurs, c'est la manière dans laquelle la plupart des chrétiens prient, quelle que soit sa façon de voir ces choses-là. En fait, les gens demandent à Dieu d'intervenir dans sa souveraineté. Bon, on ne dit pas la souveraineté, mais d'intervenir pour le salut de ceux qui nous entourent. Ben oui, c'est ce que nous croyons, que Dieu transforme. Il était annoncé que le Messie accomplirait le salut. Jésus est venu. Il a totalement accompli le salut et nous nous réjouissons de voir ce salut, de le vivre, de voir cette gloire qui se manifeste déjà un peu lorsque quelqu'un se tourne vers Christ et qui se manifestera pleinement et totalement lors de la manifestation de Christ dans sa gloire lorsqu'il reviendra nous chercher pour nous amener dans la patrie céleste. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, ces vérités que nous voyons ce matin, qui tournent nos regards vers toi, qui nous permettent de comprendre que ce salut que nous avons en Christ vient de toi, nous rend en même temps petits et nous remplit de reconnaissance, nous remplit de joie de voir ta gloire, ton œuvre se manifester. Et Seigneur, nous désirons encore voir ta gloire et ton œuvre se manifester dans nos vies et dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Éternel, nous osons venir devant toi te demander non pas juste que des gens s'intéressent au salut ou soient contents quand on leur parle de l'évangile ou fassent bonne figure, vivent bien, essayent de ne pas mentir. Non, Seigneur, nous te prions que ça aille plus loin. Nous désirons une transformation. C'est notre désir, une transformation de nature afin que les désirs soient tournés vers toi. Et Seigneur, nous sommes conscients que ces désirs sont, c'est vrai, encore entachés par le péché dans ce monde déchu dans lequel nous vivons dans la chair. Mais ces désirs sont présents et sont tellement bons. Donne-nous, Seigneur, de nous rendre compte que être chrétien, être en Christ, c'est quelque chose de tellement fantastique. C'est pas plus facile de ne pas être chrétien. C'est beaucoup plus terrible. Donne-nous la grâce de le saisir, de le comprendre et de nous approcher encore toujours plus intimement de toi. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.